Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 79 de Pop en Stock Radio. Mon nom est Jean-Michel Bertium et ça me fait un plaisir terrible de vous revoir en ce nouvel an 2016. Aujourd'hui, une thématique assez particulière, en fait, puisque Pop en Stock, comme vous le savez bien, est la balado-diffusion du site web Pop en Stock, qui se donne comme mission d'observer tous ces objets étranges et inusités de la culture pop de la façon la plus érudite et humoristique possible. J'ai un co-animateur aujourd'hui, une sympathique petite créature qui va nous dire de qui qu'on parle. Hey, Mitaine, comment ça va? Oh, Mitaine est gênée aujourd'hui. Mitaine. Ah, bonjour, Mitaine. Bonjour, Mitaine, comment ça va? Ah, ça va pas pire, ok. Et aujourd'hui, tu veux qu'on parle d'un? Hein? Ah oui, ok, peut-être plus, oui, je comprends très bien. Donc, Mitaine est très content aujourd'hui d'inviter Megan Bédard et Stéphanie Roussel pour parler de ses chers compatriotes félins. Oh, oui. Oh, allô. Aujourd'hui, Pop en Stock 79, on vous parle des chats, de cette étrange fascination que nous avons pour ces créatures félines. Fascination ancestrale, en fait, il faut quand même pas se leurrer qu'elle nous prédate tous individuellement. Donc, bonjour Mélanie et Stéphanie. Ben oui.
Mélanie,
Stéphanie. C'est vous deux, Mégane et Stéphanie, ça fait Mélanie.
Ah, ben bonjour Jean-Michel.
Salut, comment ça va?
Hey, bien toi.
Correct, là, maintenant qu'on a arrêté de faire du non-verbal radiophonique, ça passe mieux, on a aussi...
Mais c'est pour rebondir sur ta prestation du live sur Star Wars, où tu ne faisais que... du mimique.
On me l'a reproché assez de manière assez correcte et assez méritée d'être un peu trop théâtral pour de la radio. Mais bon, ça se prêtait, puis il y avait des choses qu'il fallait qu'on illustre.
Ça s'est bien passé, il y avait Maxime qui était là pour nous décrire tes mimes.
Ouais, effectivement.
Commentateur sportif.
Tout se fait en équipe, tu sais, c'est vraiment ça, quand on est dans un contexte comme ça. Pour les gens qui seraient pas au courant, enfin, on a on a rendu disponible hier notre tout premier spécial live qui s'est déroulé jeudi dernier au Station Host, où on a fait une émission de 2 heures, extrêmement intéressante à mon avis, portant sur la franchise de Star Wars et The Force Awakens. Megan, t'étais là en costume.
Mais oui.
C'est pas n'importe quoi. Donc, si vous voulez aller télécharger ça ou si vous êtes abonné à la balado-diffusion, ça sera téléchargé pour vous. Mais on serait vraiment curieux, du moins pour ma part, je serais vraiment curieux d'avoir vos impressions. Mais je ne peux pas tarder parce que clairement, j'ai un petit félin qui s'impatiente à côté de moi et qui tire un peu de ma patte. Comme vous savez. Oh, excuse. Ouais. Je suis allergique aux chats, donc pour moi, ça devient un impératif de santé, de comme leur plaire à cet empire de chatons-là. Et je sais que vous êtes très, très, très préparés. Parce que quand on lance des sujets comme ça, on dit, hey, on va observer le phénomène populaire qui est le minou, et qu'il y a autant d'enthousiasme de la part de
On s'attendait pas à avoir autant d'informations sur les chats. Donc, c'est un sujet très vague et diversifié. Et tu parlais d'empire félin. Donc, je pourrais commencer un peu avec un historique.
Vas-y.
Du félin.
Fais-toi plaisir.
Donc, on sait tous que dans l'Antiquité, les Égyptiens divinisaient le chat sous les traits de la déesse Bastet. Donc, c'est une déesse protectrice et la déesse de l'amour maternel. Les chats étaient momifiés avec leurs propriétaires. Donc, c'est une pratique réservée aux plus nantis, mais c'est pour montrer l'importance du chat. Donc, en Grèce et dans l'Empire romain, le chat était souvent utilisé pour chasser les souris, les rats, donc qui menaçaient les récoltes. Mais les Romains ont fait une mauvaise réputation, en fait, au chat, en l'associant à la luxure. Donc, ils voulaient pas que l'Empire égyptien influence culturellement l'Empire romain. Donc, ils ont en fait une mauvaise réputation. Donc, certains graffitis obscènes qu'on peut retrouver l'attestent, donc à Pompéi, par exemple, où le nom de chat ou de petite chatte, on l'associait souvent à une prostituée.
OK, donc le graffiti n'était pas orienté à dénigrer le chat, c'était à associer le chat à quelque chose de dénigrable.
Oui, exactement.
C'était pas comme tu t'en vas sur une île grecque avec un nom imprononçable, comme notre collègue Philippe Saint-Germain vient de le faire, puis il y a un gros « fuck cats » écrit en vieux grec. Scotoratitikis.
Par contre, c'est intéressant de voir que dans les deux deux civilisations, on a quand même associé systématiquement le chat à la femme, une fois pour l'amour maternel, la protection que cet amour-là peut offrir, et l'autre fois pour la luxure. Donc, ça part du corps de la femme chaque fois pour en représenter, disons, une symbolique différente.
Pour la dichotomiser aussi. Ouais. Donc, on a la femme sexuée et la femme maternelle. Oh. Et ça continue encore au Moyen-Âge. Donc, le chat est satanisé en Europe, dans l'Europe chrétienne plus particulièrement, en raison de son adoration passée de la part des païens. Et surtout, on disait que la réflexion de la lumière dans leurs yeux, ça passait pour être les flammes de l'enfer. Donc, le chat, c'était le démon. Donc c'est ça, dans la symbolique médiévale, le chat est associé à la malchance, au mal, encore plus quand il est noir, et il est aussi associé à la sournoiserie et à la féminité. Donc c'est un animal du diable, on le voit aussi dans l'iconographie des sorcières. On lui attribue des pouvoirs surnaturels, dont la faculté de posséder 9 vies. Oui, donc dans la période contemporaine, le chat devient un petit peu moins un chasseur, donc on l'utilisait pour chasser les rongeurs, mais il devient plus un animal de compagnie parce que les rats devenaient plus gros et il a fallu qu'on utilise des chiens pour le faire. Donc, on a domestiqué un petit peu plus les chats, il devient un petit peu plus banal et il connaît son véritable retour seulement grâce au romantisme. Il devient un animal romantique par excellence, mystérieux, indépendant. Donc, le 20e siècle garde cette vision romantique, qui s'intéresse aux chats aussi de manière plus scientifique, mais ça, on n'en parlera pas. Et donc, c'est ça. Contrairement à l'Europe, le Japon, par exemple, au Japon, le chat est un porte-bonheur. Donc, les maniki neko, c'est des petits talismans, des petits chats avec la patte dans les airs. Donc, les légendes attribuent le pouvoir de prédire le temps qu'il fera. En Thaïlande, la bienveillance du dieu Indra est demandée au travers d'un rituel consistant à asperger d'eau un chat dans une cage promenée autour du village. Le chat devait vraiment pas aimer
ça. Non,
mais
c'est ça.
C'est ce qui se passait.
Fait que, essentiellement, on acquiert bonne chance en terrorisant et en torturant un chat de manière publique.
En Thaïlande.
En Thaïlande, ben oui, OK. C'est très intéressant parce que, tu sais, on mentionne souvent qu'on a les dieux qu'on mérite, là, que comme c'est parce qu'on veut le vieux monsieur barbu en Christ qu'il continue à avoir des méga churches aux États-Unis qui vénèrent des vieux monsieur barbu en Christ. mais tu vois, par rapport au chat mythologisé, ben, tu peux pratiquement voir, ben, OK, mais eux autres, ils veulent peut-être plus ça. Tu sais, c'est cette idée-là du paradigme du Bouddha obèse et du Bouddha maigre par rapport aux régions. On peut, essentiellement, ce que j'essaie de dire, là, in a nutshell, c'est, on peut dire beaucoup d'une culture sur comment ils traitent leur chat. Et moi, bon, c'est cette blague-là que je faisais en introduction par rapport au culte égyptien. Cette idée-là d'un asservissement, que le chat était, prophétisé à la domination terrestre. Chose que vous aviez l'air de dire qui était essentiellement plus pour les chats à 7 doigts, mais bon.
Ah, oh ben ça va aller pour un petit peu plus tard.
C'est ça.
Les chats à 7 doigts.
J'aime ça, les chats à 7 doigts. C'est ça, vous m'avez vraiment eu là-dessus.
Oui, ils vont dominer le monde, ils ont des pouces. Donc, mais au Japon, donc, le chat est souvent associé à la chance. Donc, il peut prévoir le temps, les séismes. On sait que à peu près toute la mythologie japonaise est basée sur le fait qu'ils vivent sur une petite île où il y a plein de tremblements de terre et de tsunamis. Donc, le séisme est vraiment au cœur de leur culture. Et le chat, donc, il pouvait prévoir ces choses-là.
Ouais. Il est vraiment... Je voulais ajouter qu'il était vraiment très respecté au Japon pour avoir m'être promené un peu en Asie. Les pays asiatiques ont surtout des chiens. Moi, à chaque jappement, j'ai peur des chiens dans la vie. Donc, je fais mon coming out aujourd'hui. Puis là, j'étais en Asie, puis je me promenais, puis il y avait des chiens partout. Puis là, ils sont pas sauvages, mais ils rentrent pas à l'intérieur. Ils sont là pour garder, donc ils sont quelque peu agressifs, sont protecteurs, fait que là, ils te jappent dessus, ils te courent après. Bon, t'as tout le temps cette relation-là avec les chiens qu'il faut garder en domination pour pas qu'ils te sautent dessus, tu sais, en les fixant, en prenant une roche, s'ils s'approchent trop de toi, mais bon, tout ça, une chance que j'avais un compagnon de voyage parce que ma relation avec les chiens, ça serait mal passé. Mais là, t'arrives au Japon, puis il y a plus de chiens, très peu.
Du tout.
Mais il y a beaucoup de chats. Ouais. Il y a des îles où il y a plus de chats que d'humains.
Ouais.
Puis les humains ont tellement un grand respect envers les chats, ils vont les nourrir, ils vont s'en occuper. Tout le monde s'occupe des chats parce que c'est un animal, je dirais pas sacré, là, je connais pas assez leur rapport aux chats pour affirmer ça. Mais
il est adorable.
Mais disons qu'en tout cas, ils ont un rapport de respect envers le chat parce qu'ils nourrissent, puis il y en a des quantités phénoménales, ils sont presque tous roux.
Ah!
C'est fascinant, là. Ils ont des chats roux. Tu sais, nous, on a plus de chats gris, mais eux, ils ont des chats roux partout.
Ah, ben, c'est très intéressant. Ouais. En fait, encore aussi, tu sais, je faisais mention par rapport aux îles grecques. Je sais que on peut visiter quelques îles en Grèce ou quand on arrive en bateau, parce que c'est la seule façon d'y accéder, la ville se transforme littéralement en terrain de jeu de chat, parce que c'est via les bateaux que la nourriture arrive. Fait que quand tu débarques du bateau, tu vois cette masse de beaux poils velus qui descend et qui vient t'accueillir. Fait que ça aussi, ça a comme une part de mystique par rapport au territoire. Mais là, l'idée de chats roux qui envahissent une île japonaise, ça me fait penser à Gremlin, étrangement.
Mais ils sont pas méchants, là, ils sont vraiment affectueux.
Ben non, les Mogwai non plus. Pré-mutation, ils sont bien corrects, c'est ça. Non, quand ils ont du poil, ouais. Je parle pas des lézards. Puis en même temps, le plus que c'est peut-être on the fly comme hypothèse, mais c'est quand même intéressant que c'est Pat Morita, donc un Chinois qui donne un chat, donc un signe de chance et de bienveillance, mais qui se transforme en lézard, qui est codoté dans l'Asie comme quelque chose qui peut devenir
grandiose et destructeur. Puis si tu t'en
occupes mal, en fait. Exactement. Fait que tu sais, entre un chat et Godzilla.
Oh, c'est fascinant.
Ouais, excusez, oui. Je voulais pas amener ça là, mais vous savez, la vie trouve son chemin.
Non, ben parlant de fiction, je pourrais parler aussi, pour continuer l'historique, des chats dans les contes. Donc, les chats dans les contes, comme le chat botté, le vieux chat, la jeune souris, le chat, la souris. Donc, le chat est souvent représenté en compétition avec les animaux qui l'entourent. Donc, le plus souvent, une souris. Dans les dessins animés plus récents, on a le même pattern qui revient. Donc, le chat, la souris et le chien. Donc, si on pense à Tom and Jerry, donc le chat et la souris, on a le titier gros minel, donc on a le chien, le chat et l'oiseau, mais en fait.
Dans Cendrillon aussi, bonjour.
Oui, oui, c'est ça.
Dans Cendrillon aussi, il y a des petits légus et les petites souris, oui, puis Lucifer, mon Dieu, il me semble que c'est le nom du chat.
Mais c'est le diable.
Oui, carrément.
Comme dans les Strumpf, d'ailleurs, qui est le nom de... Gargamel, son chat, c'est Azrael, qui est le nom de l'ange de la mort, si je me trompe. Si je me trompe pas.
Absolument.
Oui. Contrairement, par exemple, aux fables dans les contes. C'est ça. Donc, dans les contes, contrairement aux fables, le chat garde l'image d'un animal malin, mais profiteur. Dans les contes... Désolé, il se passe quelque chose.
Il se passe rien. C'est Kim aussi qui est dans le fond, qui est en train de faire des simagrées, parce qu'on t'a pas présenté non plus. La simagrise!
Il y a tellement de monde dans ce studio-là. Donc, dans les contes, oui... Le chat est plus mystérieux. Donc, si on pense, par exemple, au chat de Chester dans Alice au Pays des Merveilles, donc qui disparaît et réapparaît de façon fragmentée, donc il reste seulement son sourire, le chat botté. Le chat est aussi souvent anthropomorphisé. Dans le chat botté, par exemple, on lui met des bottes, des vêtements, et il rend son maître riche par la ruse. Dans les nouvelles et romans aussi, le chat garde le même aspect mystérieux. Donc, dans les contes, on pense à la nouvelle de Edgar Allan Poe, le chat noir, ou même en poésie. Donc, on revient toujours aux mêmes caractéristiques du chat. Donc, il est indépendant, il refuse de rentrer dans les normes sociales. Il y a un certain dédain du comportement humain, il se considère comme étant supérieur. Donc, dans la fiction, les humains ont tendance à anthropomorphiser le chat ou à le considérer comme un égal, donc d'une autre espèce.
Puis c'est intéressant comme qu'est-ce que tu apportes, parce que justement avec Poe ou ça, on voit qu'il y a un sentiment d'inquiétante étrangeté qui se développe autour du chat, qui nous remet en question, qui nous regarde, qui nous jauge. Puis je voulais en venir avec... En fait, en partant hier, je relisais sur les chats des choses. Puis là, je disais que dans l'iconographie, dans la peinture, ça a pris du temps avant qu'on se mette à faire des tableaux où les chats étaient mis au premier plan. Au départ, les chats n'étaient présents en peinture que comme voleurs de nourriture en arrière-plan d'une scène. Ils se mettaient à voler de la nourriture. Donc, encore une fois, c'était une connotation négative. Puis, je veux m'en venir sur ce sentiment-là d'inquiétante étrangeté. Puis ce renversement-là que la bande dessinée Le chat du rabbin fait à mon sens sur cette figure-là, alors que le christianisme a associé le chat au démon. Dans cette bande dessinée-là, il y a le personnage principal est un chat qui mange un perroquet. Grâce à cette dévoration-là, il acquiert le langage. Puis il dit non, mais c'est pas ça, c'est parce que vous m'aviez jamais écouté avant. Puis là, il se met à essayer à parler, puis remet tout en question. Puis le rabbin se dit « Oh mon Dieu, mais c'est une mauvaise influence pour ma fille, où il va l'emmener parce qu'il est un peu dragueur avec sa maîtresse. » Donc il veut lui apprendre les textes sacrés, à comprendre les principes de la judaïté. Puis bon, il va, au travers des enseignements que le rabbin fait, le chat va toujours remettre en question qu'est-ce que bon, pourquoi on croit ça, pourquoi c'est comme ça. Donc il y a tout le temps un dialogue de remise en question. Mais la bande dessinée commence quand même par une citation que je vais dire. Chez les Juifs, on n'aime pas trop les chiens. Un chien vous court après, ça aboie. Et ça fait tellement longtemps que les Juifs se font mordre, courir après ou aboyer dessus que finalement ils préfèrent les chats. Donc, toute cette caractéristique-là d'autodétermination du chat par rapport au chien qui peut suivre une idéologie, puis après, bon, être un peu esclave de cette idéologie.
Mais c'est vrai que dans le judaïsme, il y a toute une tradition de questionnement qui est très, très forte. Et les rabbins ont été pratiquement parmi les premiers représentants de figures intellectuelles publiques dans plusieurs sociétés. Donc c'est
puis moi j'étais fascinée d'avoir déjà parlé avec un juif de justement des croyances puis qu'il soit capable de m'expliquer d'où ça venait, que si on mangeait pas du cochon, ça avait rapport à ça symboliquement, puis d'avoir autant un recul ou de réponse à ça, alors que moi on le sait pas trop. En tout cas, moi j'ai eu des cours de catéchèse, pourtant je sais absolument rien, j'ai rien compris.
Dieu on est partout, des choses tout le temps. That's it.
Vieux monsieur, il habite dans le ciel, il y a une barbe.
C'est ça, Jésus.
Il est fâché, toujours fâché. Pardonne pas pour grand-chose, sauf si tu le demandes. Encore, tu vois, ça vient opérer dans cette idée-là qu'on comprend beaucoup à propos de nous-mêmes sur comment on traite nos chats. N'est-ce pas?
Pour mentionner, il y a aussi au Japon, au début du 20e siècle, un roman quand même assez important de Soseki Natsume, que j'ai pas le nom en japonais, j'ai pas le titre du roman en japonais, mais c'est Je suis un chat. Donc c'est un roman écrit à focalisation interne, donc la narration est faite dans la tête du chat. Donc on perd un peu aussi le ton aristocrate, gentilhomme, condescendant dans la traduction. Donc il paraît que quand tu le lis en japonais, c'est vraiment on le sent plus, mais le chat est pompeux, il est grandiloquent et il juge les humains qui l'entourent, il se considère comme son supérieur. Donc il se considère pas comme un animal domestique, mais il considère que les humains sont ses animaux domestiques. Puis ça met un peu le ton pour notre émission d'aujourd'hui. Donc on peut continuer à penser au chat à partir de ces caractéristiques-là. Donc, comment on interagit avec une créature qui nous ressemble, mais en même temps qui est si différente et qui nous juge.
Puis qu'on est, incapable, si on veut, de soumettre. Là. Je veux dire, moi, je peux bien dire que mon chat, il dépend de moi, je le nourris, mais si je le nourris pas, en tout cas, ma chatte Fubuki, si je la nourris pas, elle a des techniques incroyables pour faire en sorte que je vais la nourrir. Elle sait, tu sais, il faut que je fasse semblant que des choses me dérangent pour qu'elle fasse des choses qui me dérangent pas pour attirer mon attention, parce que sinon, elle va manger les fils, mais jusqu'à temps que je la nourrisse, elle va casser les verres, elle fait vraiment, tu sais, si je suis sur mon ordinateur, elle va pitcher mes papiers par terre. Mais en me regardant, ça s'amuse même pas, c'est juste pour attirer mon attention, mais elle sait comme
c'est des observateurs hallucinants, les chats. Ils observent tout, puis ils vont vraiment faire comme des liens entre « OK, je fais ça, fais ça. Ouais. »
Fait qu'au final, c'est moi qui est soumis à mon chat, qui fait à peu près tout ce qu'elle veut de moi, selon les choses qui me dérangent le plus.
Ouais. C'est eux qui nous ont bien domestiqués.
Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je crois, fondamentalement, que le master plan, c'est toujours entretenir cette idée-là que... Oui, parce que...
Puis un jour, ils vont nous conquérir, ils vont jouer au PlayStation et ça va être la fin de la semaine. Hein?
Ouais. Ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui l'a catché puis qui nous avertit, tu sais, faites attention... éventuellement, vous allez inventer un vaccin qui va faire qu'ils sont capables de parler, puis ça va... Il y a quelque chose, inévitablement, qui va arriver, puis je sais que ça existe. Malheureusement, il n'y a pas d'œuvres qui me viennent à l'esprit, mais ça existe en fiction, cette histoire-là, qu'elle soit... Peut-être potentiellement qu'elle a été écrite par Clifford D. Simak, où on donnait le pouvoir de l'autonomie à un animal, puis la décision administrative, c'est que ça a tombé sur un chat, puis c'était la pire affaire au monde qui était arrivée, tu sais. Le titre m'échappe, mais ça peut pas venir. Cette impression-là peut pas venir simplement de moi. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Puis Stéphanie, tu le confirmes un peu en disant que tu as l'impression qu'il y a une mesquinerie.
Mais pas une mesquinerie.
Ben, la façon que tu le décris, c'est un peu ça.
Ben, c'est plus un contrôle. Un contrôle calculé.
La manipulation, là.
Donc, c'est vraiment, ouais, mais c'est pas dans la mesquinerie, parce que, tu sais, après, il y a quand même l'affection qui vient.
Oui, oui.
Il y a toute l'idée, c'est pas un contrôle pour la domination pure.
Mais l'affection ferait pas partie du schéma, tu sais, de ce bargain-là, ou ferait pas. Et pas une partie aussi dans ce cycle, je veux pas dire d'abus
domestique, parce que c'est intense. Disons que c'est une relation de séduction, c'est une relation de séduction malsaine.
Ben c'est ça, c'est que c'est comme, tiens, fuck tes papiers, flatte-moi, non, je pense qu'il y a...
Mais les chats tirent des bénéfices de toutes les câlineries qu'on peut nous faire, puis qui nous attirent à faire, là, quand ils se mettent sur leur bedaine, puis qui font les beaux comme ça, mais c'est sur moi, comment dire, c'est pas parasitaire, là, c'est que les deux en bénéficient. Là. Les humains, ceux qui aiment les chats en bénéficient aussi, puis les chats aussi en tirent bénéfice.
Ouais, tu vois ça vraiment d'un côté négatif parce que t'étais allergique.
Voilà.
En fait, c'est peut-être... C'est pas tant d'être allergique ou de voir ça de façon négative, c'est vraiment d'essayer de...
Mais,
c'est une entreprise humaine, là. T'sais, j'essaie de correctement illustrer avec des mots qui m'échappent. Qu'est-ce que c'est cette relation-là?
À l'envers, quand il y a un chat... puis que t'es malade ou que t'es stressé, il va vraiment le sentir, puis il va venir te voir, il va essayer de te rassurer, il va...
En fait, il voit parce que ils sont tellement observateurs, puis ils se souviennent tellement de patterns que tu fais, que quand tu règles pas, quand tu fais pas ces patterns-là, tu restes dans le lit toute la journée, il est comme « Oh, qu'est-ce qui va pas? » Fait que c'est pas pour te rassurer, c'est pour se rassurer qu'ils font ça, les chats. Ils sont vraiment...
On démentit beaucoup, c'est ça. Et en même temps, je sais pas si vous vouliez le mentionner, mais je pense que c'est de par ce pattern-là qu'on a, cette interaction-là, qui est venue, tous ces jeux-là. T'sais, l'idée que le chat est le Tamagotchi par excellence, t'sais, c'est le... On a fait des déclinaisons de cette relation abusive-là dans nos supports virtuels, mais c'est parce que on est tellement habitué à ce rapport-là que moi, je vais... Depuis tantôt, là, je commence à pincette. Non, fuck it, c'est super malsain. C'est terriblement malsain. C'est terriblement malsain. Ça chie partout, c'est dégueulasse.
Ça chie pas partout.
Moi, en fait,
c'est super propre.
Moi, en fait, je suis super contente qu'il y ait un hater parmi nous, là, parce que sinon, ça aurait été trop de kawaii.
Ouais, un miau miau la fesse, tout. Pis...
Non, on peut parler justement de kawaii. On avait...
Non, mais c'est ça, mais pour un peu contredire.
Bring it.
Oui, oui. Mais c'est ça, tu dis que c'est une relation malsaine, mais vous parlez aussi d'une fascination. Donc, pourquoi on est si fasciné par les chats? Donc, oui, il y a toute cette idée de lâtrer les chats depuis l'Égypte ancienne. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on aime autant les chats et aussi sur Internet? Donc, on a toujours dit... On dit souvent que les chats dominent l'Internet parce qu'ils sont partout. Et peut s'interroger aussi, est-ce que c'est le cute? Est-ce que le cuteness définit notre fascination ou pourquoi on aime autant les chats? Et on... Oui, sur le cuteness, le cute, qu'est-ce que le cute? On peut dire scientifiquement, donc il y a des chercheurs qui ont trouvé que regarder quelque chose de cute, donc des petits chats qui jouent ensemble ou même des bébés chiens ou des bébés en général, ça active dans le cerveau la zone du noyau accumbens qui joue un rôle dans la gestion des récompenses, donc du plaisir. Ça relâche de la dopamine.
Mmh. Finalement,
c'est aussi la même région qui, par exemple, quand on prend de la cocaïne ou de la drogue, c'est la même région. Donc, c'est finalement regarder des vidéos cute de chats, ça... On peut en développer une dépendance, on pourrait dire.
Puis si j'ai bien compris, en fait, parce qu'on regardait justement des études là-dessus, si j'avais bien compris, c'était un réflexe humain pour faire en sorte qu'on apprécie les enfants, pour pas qu'on ait envie de tuer les bébés. Donc, on a certaines caractéristiques, comme le visage rond, les yeux plus gros, qu'on a quand on les voit, ça active cette zone-là pour nous récompenser, pour faire en sorte qu'on tue pas notre propre espèce, qu'on essaie de construire dans la préservation
qu'on
de l'espèce.
Qu'on est addict au bébé chat, au bébé chat, au bébé chien, bébé girafe.
Ah oui,
les bébés, les bébés toutes.
Puis c'est finalement aussi pour partir du cuteness pour aller vers le kawaii, comme on parlait. Mais c'est ce phénomène-là qui se passe au Japon puis moi, je trouve que c'est un peu ambigu pour avoir été au Japon, voir de la pornographie kawaii, voir la relation des hommes avec les femmes comme une infantilisation, puis justement le fait que ça part, tout le cute, le kawaii part d'un phénomène qui s'appelle la néothénie, qui est le fait de conserver des caractéristiques juviniles à l'âge adulte ou en fait d'atteindre la maturité sexuelle à l'état larvaire comme les axolotes. Qui est une créature vraiment géniale.
Ouais, là, Ocelot, c'est vraiment
cool. On va se le
dire. Sur les chats, là, j'ai un petit bémol, là, Ocelot, je suis comme, pfff, ouais, ouais.
Mais, non, mais les chats, en fait, ils ont, ben, un, les chats domestiques ont un phénomène de néothénie parce qu'ils gardent le ronronnement puis l'esprit du jeu à l'âge adulte, ce que les chats sauvages perdent.
Oh!
Donc, ce ronronnement-là qui exprime des sentiments très forts, comme la joie, bon, la faim, la mort. Des fois, ils vont ronronner en mourant parce que ça exprime des choses très fortes pour eux.
Ah.
Mais ils conservent à l'âge adulte quand ils sont domestiqués. Donc, il y a quand même toujours ce rapport-là de domestication, de vouloir avoir quelqu'un qui est adulte avec des caractéristiques juvéniles, qui est encore dans une relation de pouvoir. Donc, le kawaii tourne tout autour de ce rapport-là à l'adulte qui est un peu
ambigu, tu
ambigu, dit, difficile.
C'est ça, c'est... Hélène, c'est gentil de dire que ça n'en prend un qui est capable de jouer l'avocat du diable, mais je pense qu'en jouant l'avocat du diable, je tire un peu les verres du nez, par exemple, de Stéphanie, qu'on voulait être cute, puis on veut tout bondir avec du papier toilette, puis de la laine, puis tout, mais non, il y a quelque chose, puis parce que Pop en Stock a une ambition scientifique, là, on veut être capable de décortiquer notre rapport face à cet objet-là, qu'on soit aussi capable d'admettre que c'est un peu fucky.
Ben oui, mais surtout que comme...
Parce qu'il y en a, c'est vrai, tu sais, le kawaii, les Fury, toute cette tendance-là de, comme t'as bien expliqué, d'infantiliser ou de nier une réalité adulte, si on peut dire.
C'est fascinant pour les femmes parce que dans le langage japonais, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais on sait en général que c'est très codifié. Il y a une façon d'appeler le maître, d'appeler l'extra-maître, d'appeler, en tout cas, bref, selon la hiérarchie. Mm-hmm. Mais il y a aussi des façons codifiées d'être vulgaire, d'être un peu casual. Fait que les hommes ont une façon qui vont, bon, je vais parler comme si j'étais un homme au Japon, mais il y a certaines femmes qui essaient de se réapproprier ça. Donc, les rappeurs, au lieu de dire, bon, je suis polie, je vais dire, je sais pas, Stéphanie Dess, en fait, je suis pas vraiment polie en ce moment, mais en tout cas, pas grave, parce que j'aurais dû dire moi avant, mais bon. Donc, j'aurais dit, si je veux dire, je suis Stéphanie, je vais dire Stéphanie Dess, pour un langage neutre. Si j'étais un rappeur ou quelqu'un qui veut montrer sa virilité, je vais dire Stéphanie Dazé.
OK.
Mais si je suis une femme, et je sais pas, on me l'a pas enseigné comment le dire, mais je sais que si t'es une femme, t'as pas le droit de dire Stéphanie Dazet, qui est la représentation virile, qui est attribuée exclusivement à l'homme. Bon, il y a des femmes, des célébrités qui essaient de se réapproprier ce langage-là, mais les femmes, elles, dans leur langage casual, ils sont cute.
Ouais.
Leur être et tous leurs mots, en fait, sont transformés dans une connotation charmante, cute, juvénile, enfant.
Et il y a un code linguistique.
Et sexy. Il y a un code linguistique, mais justement, le sexy et la juvénilité.
Oui.
Être juvénile, je veux dire, je m'étais acheté des mangas, des hentai, puis je me disais, est-ce qu'aux douanes, ils vont penser que c'est de la pornographie juvénile?
Ben oui. En fait,
j'avais un gros stress.
Le comic book Legal de Fun Fun, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est le fond légal de la défense de la bande dessinée. Le fond juridique provient d'un cas extrêmement célèbre où il y a un BDiste qui est allé au Japon, il a ramassé une couple de trucs, il est revenu, puis en fait comme slam porn, et ainsi de suite. Puis c'est pour ça que ces crises se font là. Parce que oui, t'as passé très près de faire arrêter.
Non, mais j'ai choisi adulte le plus possible.
Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours assez compliqué parce que encore. C'est très bien dit. Dans l'illustration, il y a quelque chose qui
rapporte la femme à des caractéristiques qu'elle avait quand elle était enfant.
Ben c'est ça, c'est qu'en voulant faire cute, tu fais enfant, puis là tu dessines enfant, donc tu les mets dans des contextes sexuels. Fait que là, la pente est extrêmement glissante. Et d'autant plus que
la pente est extrêmement glissante et assumée. Là, moi, j'ai vu avec des vrais humains de la pornographie juvénile très assumée dans des magasins.
C'est ça. Avec des oreilles de chat, parce qu'il faut quand même qu'on revienne au sujet d'origine, il y a un brouillement du message qui se fait, puis c'est souvent à travers la félinitude.
Mais il y a aussi le fait que le kawaii, c'est partout au Japon. Donc, c'est dans toutes les sphères de la société. C'est, oui, en pornographie, oui, dans la vie de tous les jours, mais dans les messages gouvernementaux, dans les avertissements, oui, ou sur des avions. Donc, il y a du kawaii à peu près partout, parce que pour eux, c'est plus normal. C'est normalisé d'utiliser le kawaii ou les mangas, par exemple, pour faire des arrêt-stop ou des panneaux signalisateurs dans la ville.
Je vais avoir un stop avec deux oreilles de chat. Je suis juste vraiment content. Mais c'est ça. Et le kawaii, vous avez le droit de me contredire par rapport à ça. En fait, je vous invite, là, ça passe par le chat. Beaucoup.
Ben, ça peut avoir un rapport, parce que le kawaii, c'est le cute. Ouais. Et nécessairement, quand on représente des chats, surtout, par exemple, dans les mangas, ils sont kawaii. C'est très rare qu'on ait des chats badass dans les mangas, là. Ouais. Donc, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais...
Tu sais, puis de toute façon, comme on disait, il y a déjà beaucoup, la présence des chats est énorme au Japon dans la vie de tous les jours, l'animal réel. Donc, j'imagine que si, tu sais, c'est un mélange entre le kawaii, c'est présent, les chats sont présents, bon, on mélange les deux. C'est sûr que sur les sites de vêtements japonais, t'as des sections spécifiques pour les motifs chats.
Ben oui.
Des choses comme ça.
OK, c'est ça, ça fait que je l'hallucine pas, là. C'est pas moi qui fais une association random, c'est vraiment...
Oui, mais j'imagine, mais en même temps, c'est deux éléments très présents de la culture.
Oui.
Moi, c'est ça, ben, il y a aussi, tu disais, les filles avec les oreilles de chat, ça s'appelle les Nekomimi.
Merci.
Donc, c'est ça, c'est une tendance. Donc, on achète des passes de chat, des souliers avec des oreilles de chat, des tucs avec des oreilles de chat.
Oui, et on peut aussi accessoriser jusqu'à l'ultime sexuel, là. Tu peux te rendre à des trucs...
Oui, évidemment.
Ouais, évidemment, comme pas mal n'importe quoi d'autre.
Non, mais ça, c'est... Si tu peux y penser, ça existe.
Oui, c'est ça, c'est la règle 38-74, une règle, là, en fait, qui est extrêmement rigide par rapport à toute forme d'imaginaire à sa contrepartie pornographique. Mais parce qu'on s'est rendu jusqu'à là, bon... c'est intéressant comment est-ce qu'on, t'sais, on repousse tout ça dans vers l'île du soleil levant, là. On est comme non, c'est eux autres.
Mais on peut repartir de là. Tu parlais de Tamagotchi tantôt.
C'est ça,
donc,
exactement.
Il y a le jeu Neko Atsume qui est sorti, ça fait un petit peu plus qu'un an au Japon. Donc moi, j'avais téléchargé la version japonaise qui n'était pas encore traduite en anglais et j'ai joué. Donc c'est comme un Tamagotchi. Donc on a une cour arrière et dont il faut s'occuper. On a des chats errants qui viennent et qui repartent. Il faut leur acheter de la nourriture et des jouets. Puis plus nos jouets sont rares et fancy, plus on peut avoir des chats spéciaux. Donc des chats avec des déguisements. Il y a un chat samouraï, il y a un chat explorateur. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est... On joue un peu, on y va comme un Tamagotchi. Une fois par jour, on va s'occuper de nos minous, puis après, on ferme notre application. Moi, je comprenais rien quand j'y jouais, puis c'était tout en japonais, mais j'ai quand même réussi à jouer. C'est pour dire, c'est pas très, très complexe comme jeu, mais c'est très, très populaire en ce moment.
Oui.
Surtout depuis qu'ils viennent à traduire en anglais, ça fait, je pense qu'ils ont fait ça cet été. Donc,
parce qu'en même temps, c'est une illustration. C'est drôle parce que le fait que ça soit un jeu qui a accédé à la popularité à travers le mobile, pour moi, est extrêmement représentatif. C'est l'objet qui est en train de... Ben, en fait, c'est l'imaginaire qui prend la forme de l'objet. Donc, le Tamagotchi, c'est cette affaire-là que t'es pas capable de laisser de côté pendant deux minutes parce qu'il va crier, parce qu'il veut une banane ou une claque. Puis là, t'es littéralement en train de faire de ton téléphone cellulaire un objet qui émule une vie qui veut une banane ou une claque. Fait que c'est de... à la fois humaniser, mais aussi de puis là, je pense pas qu'il y a véritablement une expression pour ça, mais de mettre un comportement humain sur un objet inanimé, c'est pas tout à fait de l'animisme, mais presque.
Ouais.
C'est pratiquement du panthéisme, là, à ce point-ci. On est comme un peu dans le Shinto, là, c'est autre chose. Mais c'est ça, de traiter le chat dans ton téléphone
comme un vrai chat.
Comme un vrai chat.
Mais c'est vraiment moins dramatique qu'un Tamagotchi, parce que j'ai arrêté de jouer à un moment donné pendant comme 6 mois, puis ils sont pas morts.
Ah, OK. Ben, c'est peut-être la solution, parce que
c'est des chats errants, donc ils vont ailleurs.
OK, c'est tout. Est-ce que on est-tu rendu au point technologique ou est-ce qu'ils vont ailleurs chez quelqu'un d'autre, comme dans un voisin de wagon?
C'est une transfictionnalité de jeu de chat. Donc,
c'est pas pour rien que je te pose cette
question-là. Si les chats sont dans mon téléphone...
Est-ce qu'ils sont...
S'ils sont pas dans mon téléphone, est-ce qu'ils sont dans le téléphone de mon voisin?
Exactement.
On pourrait parafictionnaliser Neko Atsume et penser ça.
Faudrait savoir c'est quoi l'algorithme.
Ben c'est ça, je serais vraiment curieux. On a un article là, qui est en train de se traîner. Hein? Non, mais c'est ça, c'est plutôt, en bref, de dire, on met un chat dans notre téléphone, donc on traite le téléphone comme un chat, puis on est déjà en train d'établir un rapport complexe, malsain, de domination par rapport à nos objets mobiles, qui, pour moi, miroite un peu la relation malsaine, paradoxale, de domestication qui existe avec le chat. Mais ça, c'est moi qui trouve que l'Internet, les choses...
Mais pour nuancer la nuance...
Non!
Parce que là, c'est alors, on est comme au Moyen-Âge encore à vouloir dire que le chat est un animal horrible, qui a une relation de malsaine avec l'humain, oui. Des choses comme ça. Mais moi, je voulais aussi parler de la réappropriation féministe des chats, parce que, ou même anarchiste, je veux dire, au 19e siècle, les anarchistes ont utilisé le chat comme symbole. Mm-hmm. Les féministes encore aujourd'hui utilisent le chat parce que, bon, comme on disait tout à l'heure, c'est associé... à la femme, la chatte est associée à la femme. Donc, c'est vraiment pas sérieux. Ben, c'est sérieux, ça va venir finir par être sérieux, mais comme préliminaire à ma réflexion, je voulais partager avec les auditeurs de Pop en Stock une enquête hyper scientifique que j'avais menée auprès d'un groupe d'initiés en littérature cet automne. On leur faisait faire un test BuzzFeed okay. pour savoir s'ils étaient plus Miley Cyrus ou Taylor Swift. Je préparais mon autre émission à l'époque, donc... J'essayais de savoir c'était quoi la psychologie des gens par rapport à ça.
Très bien.
Puis, suivant le test, on devait leur demander s'ils étaient plus chat ou chien. Et tout le monde a dit qu'il était chien, selon ses arguments. Un chien est docile, admiratif, attend au bas de la porte, t'écoute, et tu peux avoir... Tu sais qu'il va toujours t'aimer.
Loyal, pas docile.
Moi, je réutilise leur mot. Il disait docile. On sentait vraiment un besoin d'amour difficile, qu'il avait besoin qu'un animal les admire. Donc, puis ça va avec l'idée, c'est shit Churchill qui disait « Les chiens vous regardent tous avec vénération, les chats vous toisent tous avec dédain. » Donc, comme on disait, bon, le chat, durant l'Empire romain, a été associé à la prostituée, la chatte a été associée à la prostituée. Encore aujourd'hui, on a encore cette signification. Le reste dans le langage, puisqu'on utilise « chatte » pour désigner le vagin d'une femme. Ben, le vagin, c'est juste les femmes qui ont... En tout cas, peu importe, non, ça pourrait être autre chose. Il y a du monde, d'autres personnes qui ont un vagin. Je n'ai pas dit ce que je viens de dire. Je m'excuse. Donc, pour désigner le vagin. Et l'adjectif « chatte », on peut dire à quelqu'un qu'elle est chatte pour dire qu'elle est douce et affectueuse. Mais il y a une tension entre une volonté d'appropriation, de soumission. On va parler de catcall quand on veut dire à une femme qu'elle est belle, puis bon, avoir le droit de tout dire. Puis en contrepartie, une femme qui est indépendante puis qui préfère un chat à un homme, si on veut, on va dire que c'est une crazy cat lady.
Y a-t-il une distinction? Est-ce que c'est deux classes sociales vraiment distinctes entre la cat lady et la crazy cat lady? Y a-t-il comme un level up? Tu as un niveau de... Tu peux être cat lady?
Je pense que dans l'usage en ce moment, là, l'usage courant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de distinction. Non. Peut-être avant l'Internet, avant notre connexion en réseau avec plein de monde, la crazy cat lady, c'était la vieille folle au chat qui habite au coin de chez nous, qui ramasse tous les chats errants, puis une cat lady, c'était juste une fille. Je comprends la distinction que tu veux faire, mais je pense qu'aujourd'hui...
tout ça est rentré dans le même lot, puis...
C'est rendu...
Puis de toute façon, ça revient au même, je veux dire, c'était la vieille... Tu sais, c'était la femme célibataire rendue à un certain âge, si elle avait encore des chats et pas un mari, ben c'est rendu une crazy cat lady, puis elle accumule les chats, puis une cat lady, elle serait plus jeune... Mais ça reviendra au même principe,
ouais.
Sauf qu'elle serait cute.
Ouais, ben encore, c'est peut-être un truc du fait qu'on n'utilise plus l'expression Billy, qui est un terme extrêmement important et précis pour décrire une femme, là, tu sais. Sunset Boulevard, c'est le récit par excellence d'une Billy. On parle de la psycho Billy. Peut-être qu'il y a comme, plus qu'on utilise moins Billy, là, on est rendu vraiment dans Cat Lady, puis on généralise qu'une femme qui a un comportement anxieux ou hystérique doit être nécessairement entouré de chats. Ça dit beaucoup, ça, encore.
Mais ça dit beaucoup. Mais en même temps, c'est ça. Puis c'est pas juste sur un comportement anxieux que l'idée, je veux dire, on attribue à un comportement d'indépendance chez la femme, puis un refus d'une norme, je veux dire, de rentrer dans le carcan hétéronormatif, d'avoir une relation.
C'est qu'on hoarde des chats, genre. C'est ça qui est dangereux là-dedans. C'est qu'on est en train de conserver en captivité beaucoup d'êtres humains au lieu de conserver comme des citrouilles et des boîtes de pizza. Non? Quoi? Non, mais je suis vraiment en train d'essayer de comprendre l'envers de la médaille par rapport à ça, mais bon.
Mais tu sais, parce que je voulais en venir, c'est que maintenant, les féministes, on reprend quand même ces termes-là.
Ben oui.
On va utiliser le chat comme un symbole, catsagan, catcall. Les femmes entre elles se disent « Ah, mais quand je vais être vieille, je vais avoir 58 chats. Mm. » C'est rendu, on rit ensemble en se disant « Ouais, mais avec nos 58 chats, on va être heureuses. » Il y a une stratégie pour récupérer... ce terme-là ou cette association-là. Puis ça apparaît vraiment dans des mouvements politiques. Là, il y a eu Confused Cats Against Feminists, qui était un détour ironique pour dénoncer l'absurdité des arguments de l'anti-féministe, des femmes qui disent ne pas avoir besoin du féministe parce qu'elles aiment se faire catcaller ou elles ne vivent pas, elles, d'oppression. Mm-hmm. Ou elles aiment enseigner à leurs filles d'être belles, donc ça justifie de lutter contre le féminisme. Puis ces chats-là affirmaient... Il y avait plein de chats qui affirment sur Internet maintenant de ne pas avoir besoin du féminisme parce que c'est pas de la nourriture. Est-ce que c'est de la nourriture? Où est ma nourriture? Ou de ne pas avoir besoin du féminisme parce qu'ils sont vraiment heureux à être dans une boîte. Fait que pourquoi ils devraient lutter contre leur captivité? C'est le fun, jouer dans une boîte.
Ben absolument. Bon, oui.
C'est ça, on utilise la personnalité, les caractéristiques indépendantes, puis... Mm-hmm. Que eux ils s'en foutent un peu de nous puis de nos réalités pour dénoncer le mouvement I don't need feminism. Donc pour si vous voulez regarder, c'est une page Tumblr, puis c'est les filles de wehuntedthemammoth.com qui est un site qui reprend toutes des articles du MRA pour les réfuter très sarcastiquement. C'est assez drôle et intéressant.
Puis, on vous invite à prendre des photos de vos chats et à dire pourquoi votre chat n'aurait pas besoin du féminisme.
Mmh. Oui.
Ben, c'est drôle parce que ça me fait... conséquemment, ça me fait aussi penser à la réappropriation du terme de la sorcière.
Ouais, ouais.
Ça aussi, la sorcière est extrêmement connotée de par son familiar de chat. Mm-hmm. Là, je veux comme pas aller trop loin, là, mais tu sais, Mark Danielowski est présentement en train d'écrire un opus de 26 livres qui s'appelle The Familiar. Donc, ça serait essentiellement la fin de la publication de tout ça. 26 livres d'au-dessus de 600 pages qui racontent l'histoire d'une petite fille qui achète un chat. Mm. Ça, c'est...
Wow.
Et il encourage, comme tu disais, c'est pour ça que ça me faisait penser, à chaque publication de livre, il va en avoir un par année pour les années à venir. Les lecteurs sont encouragés à aller à lui poster ou à lui envoyer par courriel les photos de leur chat aussi. Fait que je voulais... Ouais.
Oui, puis en même temps, c'est ça. Puis si la sorcière était... ça revient à la Crazy Cat Lady. Si la sorcière était un symbole marginal, c'est pour ça qu'on a voulu... c'est un symbole de marginalité et de colère. C'est pour ça qu'elle a été... c'est pour ça qu'on en a fait un symbole du mal. C'est pour ça qu'il y a eu une réappropriation féministe. Puis bon, après, il y a une réappropriation capitaliste de ça en sexualisant la sorcière puis en refaisant un objet de beauté et de gentillesse.
C'est très vrai. C'est très... Oui, absolument. C'est une bonne observation. Puis c'est peut-être une dynamique qu'on fait aussi avec le chant. T'sais, tout ça participe à comme une motion herméneutique assez... n'est-ce pas?
Bon, on peut transiter un peu. Donc, oui.
Je vous en prie.
Oui. Donc, on voit que le chat a une forte charge d'autodérision et de critique. Donc, on regarde le chat et on réfléchit à nous-mêmes.
C'est ce que j'essaie de faire depuis tantôt. Oui,
puis on critique l'humain, là. Ça a une forte charge de critique. Si on pense aux pancartes électorales en 2015, ça a été enlevé puisque c'est complètement illégal. Ils reprenaient ils adaptaient les slogans des partis de façon très facile. Puis ils mettaient des chats comme candidat à l'élection. Mm-hmm. Tu pouvais voter pour un chat au NPD. Puis il y a des choses comme ça. Donc, tu sais, il y a quand même cette... Bon,
la figure du chat, ça opère un peu un décentrement de l'humain vers le minou.
Et vers le charisme aussi. Là,
c'est ça. Mais ça m'amène à parler de mon sujet de prédilection. Donc, Alien. Bon. Et John C., donc le chat du premier film.
Oui, c'est vrai!
Donc, le premier film de 1979... réalisé par Ridley Scott, met en scène les 8 passagers.
Oui, les 7 passagers, parce que le 8e passager, c'est...
Oui, mais on ignore complètement. John C., il n'est pas inclus là-dedans. Donc, à chaque critique, donc c'est dans un petit livre de Roger Luckhurst qui fait une étude sur le premier film d'Alien et son influence dans la culture contemporaine. Et il y a un tout petit chapitre qui consacre justement à John C. et à son absence de la critique d'Alien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de critiques universitaires là-dessus. Et il n'y a jamais personne qui parle du chat.
C'est vrai?
Oui, c'est ça. Même à la fin du film, il y a Ripley avec le chat assis sur elle qui dit qu'elle est la seule survivante du Nostromo. C'est un mensonge, le chat aussi a survécu.
Je suis content de voir qu'on a une tribune publique pour régler ces torts-là.
Non, mais là, on va pas être spéciste, là. Le chat a survécu.
Surtout si l'Alien, c'est le 8e passager, on considère que tout non-humain est un passager, donc le chat devrait l'être.
Exactement.
Oh, il y a une erreur factuelle. Qui? Je suis d'accord.
C'est le huitième passager qui est le titre québécois, donc c'est juste au Québec que c'est le huitième passager. Puis il y a aussi une ambiguïté, donc souvent à la fin du film, on voit John C. Qui regarde le alien, puis là, il y a beaucoup de fan theories qui disent que le chat porte l'extraterrestre en lui, il va spawner quelque part à cause du chat. C'est pas encore arrivé, mais on peut dire, pour faire contre-pied, dans Alien 3, c'est un chien, un chien stupide qui se fait contaminer, le chat n'est pas contaminé. Pourquoi?
Ouais, ou un bœuf, dans la version...
Oui, dans la version longue.
On en revient à l'autodétermination du chat.
Oui, puis en même temps, c'est aussi, si on veut jouer dans la progression du symbole dans Alien, le John Dee est remplacé par un enfant dans le deuxième, par Newt.
Oui, mais j'y arrive.
Ah oui, excuse, je suis désolé.
Oui, c'est ça. Donc, le chat, c'est... on peut considérer comme un élément essentiel de la diégèse parce qu'il est utilisé afin de faire peur. Donc, il y a un moment où on méprend le chat pour un extraterrestre et l'on fait un saut.
Ouais, le jump scare, c'est le chat.
Finalement, c'est le chat. Donc, même à la fin, il y a un gros moment de suspense quand Ripley décide de retourner sur le vaisseau pour aller chercher John C. qui est resté dans sa cage. Et là, ça... Le vaisseau est en train d'exploser, puis un gros moment de suspense. On peut tourner la situation autrement. Ça s'est arrivé souvent aussi. Il y a une critique qui l'a fait en regardant Alien, le film, comme étant centré entièrement autour du chat, donc de sa survie personnelle, et les humains étant seulement accessoires. Donc, ce sont des dommages collatéraux. Donc, le chat, il regarde les humains mourir comme si de rien n'était. L'important, c'est que lui survive.
C'est ce que je dis depuis tantôt.
Oui, c'est ça. Il n'y a aucune compassion. Il manipule Ripley pour qu'elle l'amène avec elle sur l'escape pod. Donc, John C. est aussi le seul personnage assez intelligent pour ne pas retourner sur la planète dans le deuxième film où il y a plein d'extraterrestres.
Mm-hmm.
Lui, il va vivre sa vie heureux. Il ne mourra pas. Éventuellement, de vieillesse après ses 9 vies.
C'est ça. Lui, il va s'en sortir très bien. Là.
Donc, c'est ça. Et dans cette perspective, donc, je disais... Anne Bilson, c'est une auteure et critique de cinéma qui a réécrit Alien au complet à travers les yeux du chat. Ça s'appelle My Day by Jones. Mais c'est ça. Les humains ne sont qu'accessoires. Ils sont appelés par leur fonction. Donc, ce sont des can openers.
Ah! Donc, ça, c'est une fanfiction, en fait. C'est publié ou c'est disponible? Je veux le lire.
C'est disponible, j'ai pas cherché encore. Okay.
Parce que je veux absolument lire ça. Surtout que, de par le titre, ça indique que le chat ne se considère pas comme quelque chose de cute. Il n'est pas Jonesy. Il est Jones.
Mais c'est comme ça que les humains l'appellent.
Ah oui, OK, c'est ça.
Parce qu'il y a une couple de fois où il appelle Jonesy, mais c'est son surnom, là.
OK, je pensais que c'était vraiment plus comme une réappropriation de son statut, de comme I'm not Jonesy. Don't fucking call me Jonesy. Fucking Clive.
Mais pour dire à quel point le chat est important sur le plateau, Ripley, qui est la première fois qu'elle a pris le chat, donc parmi une sélection de 4 chats, elle a fait une réaction allergique. Mais elle pensait qu'elle était allergique au chat et est allée pleurer dans les vestiaires parce qu'elle était sûre que c'était plus facile de la remplacer elle que de trouver un chat identique à Jonesy. Anecdote comme ça, là.
Qui est très bonne.
Finalement, elle n'était pas allergique. Tout s'est bien passé.
Et on a eu une belle franchise florissante.
Oui.
Et un chat qui a survécu, puis il a probablement mort de vieillesse.
Non, c'est ça. On le considère comme. Donc, les critiques, il y a deux façons d'approcher le chat dans Alien. C'est on le considère comme juste une autre bête rampante qui est un peu un contrepoint de l'extraterrestre qui hante le vaisseau lui aussi. Ou comme. J'ai oublié le mot. Donc, ça, on l'utilise un peu pour exacerber l'instinct maternel de Ripley à la fin. Je cherche son nom, Tony Safford, qui parle justement de la fin d'Alien comme une reconstitution de la domesticité avec Ripley et son chat. Alors que si on se fie à ce qu'on vient de dire sur la célibataire et le chat, c'est un petit peu un... En fait, c'est totalement le contraire. En plus que dans le deuxième film, Newt, qui remplace le chat, c'est une enfant et on voit que son instinct maternel est beaucoup plus exacerbé qu'avec le chat. Donc il y a un petit peu un lien d'affection, malsain encore une fois. Affection, donc le chat l'ignore, mais il vit avec nous.
C'est un rapport en complexe. Hein?
Non, c'est ça. C'est Erica Fudge qui écrit que contrairement au chien, au lieu de reconstruire la sphère domestique, le chat semble davantage la remettre en question. Elle ajoute que notre connaissance limitée de l'univers est remise en question par la résistance du chat à se laisser absorber par notre vision anthropocentriste du monde. Ah. En même temps, c'est un peu nous qui projetons ça sur le chat, mais c'est une réflexion.
Mais après, on a voulu pousser cette réflexion-là parce qu'on se questionnait sur plusieurs phénomènes sur Internet. Gabriel Godette, qui avait pensé peut-être participer à l'émission, mais là, il est à l'extérieur, il parlait de notre fascination pour les vidéos de chats qui attaquent des bébés. Mm-hmm. Donc, à partir de cette réflexion-là qui remet en question le chat comme remise en question de notre anthropocentrisme qui, comme je disais tantôt, qui développe un sentiment d'inquiétante étrangeté, est-ce que c'est cette lutte-là aussi qu'on aime observer quand on voit des chats attaquer des bébés, entre deux choses cute, dont une qu'on devrait plus protéger, mais on se met à finalement être hilar.
C'est drôle.
C'est drôle. Ouais. Ah oui. Puis c'est par surprise, de façon vraiment sournoise.
Ça mérite une grande, une plus importante réflexion.
Mais non? On accepte. On se dit que, je sais pas, on accepte chez le chat cette remise-là en question de l'homme. C'est la même chose qu'on fait des selfies de nous avec des chats en sachant que c'est le chat qui récolte les likes et pas notre visage.
Mmh. Mais le chat aussi détourne l'attention. Donc, on juge un peu négativement le selfie quand on en voit, là. On a une tendance à faire ça. Mais si quelqu'un se prend en photo avec son chat en selfie, ça ne dérange pas.
Ça débarrasse la connotation négative et de l'ego portrait, là, cette idée-là.
Mais ça décentre en même temps l'ego humain. Donc, on l'envoie sur le chat.
Ouais.
Et parce qu'on on trotte vers la fin, est-ce que ça serait peut-être ça l'ultime truc de... Tu sais, le chat est le compagnon. Bon, on dit toujours que le chien est le meilleur animal de l'homme, mais bon, c'est ouvert à interprétation là, pour chaque personne. Mais peut-être que c'est ça, le chat est l'ultime compagnon, cible alternative. On peut, comme vous disiez, tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de venir à la fois... sympathiser avec notre tristesse, mais qui le fait pour des raisons peut-être altruistes. Es-tu le sidekick par excellence, le chat?
Peut-être que c'est notre double qui nous pousse à aller plus loin ou qui nous remet en question. Parce que, tu sais, je veux dire, comme on disait, on peut l'humaniser, mais au point de nous remplacer, si on regarde les pages Facebook, Feelings of New York, ou si on regarde la popularité du projet de transformer un album de rap en changeant les chants, les sons produits par des humains, par des sons produits par des chats. Ça a été, j'ai noté quelque part, ça a ramassé 65 783 $ donnés par 2 828 contributeurs. Donc, c'est l'album Run the Jewel qui s'est transformé en Mew the Jewel, puis il faisait des auditions à des vrais chats pour trouver les chats qui avaient les miaulements les plus appropriés. Donc, il y a quand même un réel décentrement des compétences des hommes par une reconnaissance de notre attrait pour les chats qui nous fascinent, je sais pas.
Donc, peut-être que l'attention qu'on attribue aux chats actuellement, qui pullule de par l'Internet, qui est, comme on le sait bien, « made of cats », ça serait peut-être une attaque sur le patriarcat ou du moins une façon de défaire sa base du pouvoir?
Ben je sais pas. Ben il y a quand même tu sais, on parle d'attention, ça me fait penser à un article qui s'appelle « Le capitalisme mental » de George Frank, qui exprime très bien comment, si aujourd'hui on regarde des vedettes, c'est qu'il y a un phénomène de prééminence. On essaye, en likant quelque chose qui a été liké par plein de personnes, de s'attribuer le capital symbolique de cette chose-là, puis après, on peut le transformer en capital monétaire parce qu'on va se faire connaître. Donc, est-ce que quand on fait un selfie avec un chat, on essaye de s'attribuer l'attention que le chat est capable d'avoir, que l'humain, en acceptant que l'humain ne serait jamais capable de l'avoir seul?
Ouais. Bon, oui, c'est ça. Moi, non, absolument. Puis même, je ne limiterais pas ça simplement au selfie. C'est toute forme d'exploitation, littéralement, du chat, cette idée-là de faire des tournées mondiales à Grumpy Cat.
Ah oui, puis je veux dire, si on... Dans la politique, on avait lu que...
Oui, c'est le chat de Bill Clinton, Scott, qui est comme un proto-Grumpy Cat. Donc, il est devenu célèbre en 1992. Il possédait son propre site web, donc avant le web 2.0.
Ouais. On lui a fait faire des funérailles.
Oh.
Ah oui, en 2009, sur la presse, c'est carroché sur la mort de Sox quand il...
Il y avait des gros titres là au New York Times qui parlent de...
Que rien de plus près qu'aujourd'hui. En fait, dans les dernières 24 heures, il y a eu cette espèce d'annonce de chat polynésien qui ressemble à Kylo Ren. Oui. Là.
J'ai vu un montage animorphe avec... je me rappelle plus c'est quoi son nom.
Adam Scott. Adam Driver.
Adam Driver qui devient ce chat-là. C'est ça.
Je pense qu'on a lancé énormément d'hypothèses et de perches analytiques pendant l'émission. C'est un peu pour ça que ça nous a donné ça a donné comme une track audio de une heure où on était dans le catnip, puis on bondissait.
On testait des théories.
Mais c'est ça, parce que je pense que avec les années à venir, il va falloir regarder ces théories-là avec plus de scrupules, parce qu'ils vont révéler énormément de trucs. Je sais que je reviens souvent à ça, mais j'ai l'impression que le plus qu'on va regarder le chat et comment nous autres on regarde le chat ou comment que le chat se manifeste en nous regardant, on va apprendre énormément par rapport à nous-mêmes. Je sais pas si c'est comme l'intuition que vous avez, vous, après votre recherche étendue.
Oui, mais ça fait...
Ben oui, puis en plus, c'est ça, il y a tout le temps des phénomènes d'autodérision quand on pense à Keyboard Cat qui reprend des choses puis les ridiculise, des choses produites par lui-même puis qui vient les ridiculiser, comme la toune de Miley ou...
Le trailer de... La Guerre des Étoiles.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu, le poster qui a été refait au complet avec des chats. Je vous remercie énormément pour cette émission-là, qui était, comme je dis, forte en théorie. Évidemment, on va aller écouter Meowrly de Run the Jewels, version féline, pour voir ce que vous en pensez, là, si ça fonctionne comme projet, puis ça vaut la peine d'être backé. Donc, une fois de plus, merci beaucoup, Kim. Merci, Megan.
Merci pour l'invitation.
Ça fait toujours plaisir. On y va. It be feeling